146.
Nous relirons à partir du verset 8 du chapitre 1 de la première épître à Timothée. Mais nous savons que la loi est bonne si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, Et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
La dernière fois, nous avons considéré un petit peu les versets 5 à 11. Nous avons vu que dans ce début de chapitre, que le but de la mission de Timothée, c'est que les saints soient dans un bon état. Et ce bon état est produit par une saine doctrine, c'est-à-dire l'ordonnance du verset 5. Cette saine doctrine nourrit les âmes. Au contraire, Timothée devait reprendre pour les gagner ceux qui enseignaient des instructions légales, des fables et des généalogies qui ne nourrissent pas et qui troublent l'Église. Il devait les reprendre pour les gagner, car à ce moment, il voulait être docteur de la loi, alors qu'ils étaient sous le temps de la grâce. Mais bientôt, il est dit qu'ils feront naufrage quant à la foi, et certains même seront livrés à Satan. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus rien être fait pour eux. L'apôtre ouvre alors une parenthèse du verset 8 au verset 17, pour montrer qu'il y a deux manières de produire l'état du cœur du verset 5. C'est-à-dire l'amour qui procède d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La première manière, c'est la mauvaise, certainement ceux qui voulaient imposer aux croyants la loi ou des principes légaux. La loi qui en elle-même est bonne et s'adresse à la conscience de tous les hommes. Mais ils se méprenaient sur le but de cette loi. Elle n'était pas pour le juste, elle n'est pas pour le juste, mais pour les iniques. Et elle ne donne pas de force en elle-même, et elle n'a pas d'effet durable. Et elle n'apporte pas la faveur de Dieu. C'est finalement mettre en commandement quelque chose qui devrait être un fruit de l'esprit. La deuxième manière, c'est certainement la grâce, la miséricorde. Et Paul se donne en exemple pour montrer cette seconde manière de produire cet état de cœur. Par la grâce, lui, le plus grand des pécheurs, il a été transformé en un modèle durablement. Au verset 9 et 10, nous pouvons nous reconnaître dans la liste de ces versets, ne serait-ce que par le caractère de menteur. Mais nous sommes exhortés par le Seigneur lui-même à surpasser la loi, en Matthieu 5. Mais si nous ne pouvions accomplir la loi, bonne et rendue honorable par le Seigneur, nous ne pouvons pas la surpasser que par la grâce et la conscience de la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant dans l'exemple de Paul.
Nous pourrions souligner l'expression « l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié ». C'est un titre remarquable de notre Dieu sauveur. Il est le Dieu bienheureux. On retrouve cette même expression dans le chapitre 6 de Timothée, de la première épître, où il nous est dit au chapitre 6, verset 14, « Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent. » Dieu est un Dieu bienheureux. Cela veut dire que nous trouvons le bonheur en lui seul. Et nous ne pouvons pas trouver le bonheur en dehors de Dieu. Et nous savons que sur la terre et dans ce monde, c'est une des caractéristiques de l'homme, il est toujours à la recherche du bonheur. Et nous savons que le livre de l'Ecclésiaste nous parle en particulier de cette recherche du bonheur, mais c'est en Dieu seul, le Dieu bienheureux, que se trouve le bonheur. Et il est remarquable qu'il soit dit, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle que le Dieu bienheureux, veuille le bonheur de ses créatures. Et il désire donc nous donner ce bonheur, le bonheur de le connaître, le bonheur de connaître Jésus-Christ. Il y a une expression qu'on pourrait relever dans les Proverbes. Dans le chapitre 3, verset 13. L'expression « bienheureux, l'homme qui trouve la sagesse ». La sagesse est personnalisée, en particulier dans les Proverbes, par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et bienheureux l'homme qui trouve la sagesse, eh bien, c'est trouver Christ. Christ comme notre Sauveur personnel, et de le connaître. En encore un mot sur 1 Timothée 6. Le bienheureux est seul souverain. C'est assez difficile dans ce verset de savoir si ce qualificatif ou ce caractère divin de bienheureux est en rapport avec Jésus-Christ ou avec Dieu lui-même. Mais on peut s'arrêter sur le fait que Dieu est un Dieu bienheureux. Et nous savons que la déité est composée de trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Dieu bienheureux, eh bien, il existe une harmonie parfaite et absolue entre les trois personnes divines. Et c'est pour ça que l'on peut dire que Dieu est ce Dieu bienheureux. Hein, il existe donc cette harmonie parfaite et absolue entre les trois personnes divines. Et le verset du 14 de 1 Timothée 6 nous parle de la plénitude de ce bonheur ou l'épanouissement de ce bonheur. Eh bien, nous y entrerons au moment de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux et bienheureux lorsque, par grâce, nous nous convertissons, nous sommes nés de nouveau, et nous voyons que nous entrerons dans ce bonheur parfait à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, peut-être qu'on pourrait y entrer aussi, nous parle aussi de notre bonheur journalier. Si nous avons ce bonheur de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et de savoir qu'à son apparition, nous connaîtrons ce bonheur complet avec lui, avec le Seigneur Jésus, eh bien, il existe aussi un bonheur journalier, mais qui peut être terni par beaucoup de choses. Et Dieu donc, et grâce lui soit rendue, nous sommes appelés à connaître Dieu, à connaître ce Dieu bienheureux.
Il est peut-être bon pour les plus jeunes de reprendre juste ce verset, comment il se raccroche à ce qui précède, parce que c'est comme des passages, ça fait partie de ces passages où l'apôtre enchaîne des pensées qui sont liées l'une à l'autre et où il est bon un petit peu de les reprendre dans l'ordre. Je reprends juste la lecture. La fin du verset 9, disons, la loi n'est pas pour le juste, mais pour, et on a toute cette liste que je saute, et on continue directement, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée, donc il y a toute cette liste de caractères qui nous sont donnés dans les versets 9 et 10, auxquels s'ajoute toute autre chose qui serait opposée à la saine doctrine. Et cette saine doctrine, elle est précisée là, opposée à la saine doctrine suivant l'évangile, c'est-à-dire suivant la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. La saine doctrine qui est en rapport, qui a pour objet, qui a pour but, comme pour contenu, on peut voir plusieurs points d'entrée, l'évangile, la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. Et alors, ce qui est très beau, Michel en a dit quelque chose, Je reprends un peu autrement. On s'attendrait à ce que, étant parlé de la gloire, la suite ce soit du grand Dieu Tout-Puissant ou du Dieu Saint. Mais non, c'est ce caractère, c'est la gloire du Dieu Bienheureux. La gloire qu'on peut relier au caractère de Dieu Lumière et du Dieu Bienheureux qu'on peut relier au caractère de Dieu Amour. Et cela, cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est la chose qui a été confiée à l'apôtre Paul. Qui m'a été confiée ? Son service, c'est annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui a quelque chose de... Comment dire, pour pas restreindre la chose, mais quelque chose de très large. La bonne nouvelle, elle a Christ comme centre. Dieu révélé en Christ. Christ, Seigneur, Sauveur. Le salut en Christ. Il y a tout un registre, quand on parle de bonne nouvelle, de l'Évangile, on ouvre un registre énorme, insondable, de tout ce en quoi Dieu se révèle à nous. Et là, l'apôtre le résume dans la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. Quand il est parlé de Dieu, cela inclut le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la déité, c'est Dieu dans son entier, dans son absolu, qui se révèle à nous sous ces trois personnes. Mais c'est toujours, à la fois nous devons les distinguer, à la fois nous ne devons pas les séparer l'une de l'autre. Et quand il est parlé du Dieu bienheureux, peut-être que spontanément on le raccroche à l'Éternel et on le raccroche plus au Père qu'au Seigneur Jésus et au Saint-Esprit. Alors qu'en fait, là, le Dieu bienheureux, la gloire du Dieu bienheureux, c'est Dieu dans son absolu, sous ces trois personnes sur lesquelles il se révèle à nous, mais encore bien plus, lumière, amour, l'Éternel, le nom utilisé pour se révéler à Israël plus particulièrement, le Tout-Puissant, le Dieu fort. On peut prendre toutes ces expressions que la parole nous présente, où Dieu se présente sous une facette. J'aime beaucoup l'image du cristal qui a plein de facettes, et on tourne le cristal, des cristaux de forme un peu compliquée peuvent avoir des facettes de formes très différentes, et en tournant le cristal, on voit toujours le même cristal, mais chaque fois sous un angle, sous une forme différente. Et c'est cela qu'on va retrouver dans cette expression, le Dieu bienheureux et sa gloire, c'est l'ensemble, c'est tout ce cristal. Un cristal, nous ne pouvons pas le regarder sur tous les côtés en même temps. Nous regardons d'une manière et puis après on le tourne et on regarde d'une autre manière. Et on ne peut pas le regarder toutes les faces, tous les côtés en même temps. Mais c'est un petit peu, c'est une pauvre image pour nous parler de quelque chose de bien plus grand. Le Dieu bienheureux, la gloire du Dieu bienheureux, la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux. Et voilà le service qui a été confié à Paul.
Pour continuer dans ses pensées en rapport avec ce beau verset et cette belle expression de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui a été confié à Paul, peut-être qu'on peut, on peut dire plusieurs choses. Alors d'abord, dans la langue française, on parle du Dieu bienheureux et on distingue bienheureux et béni. Alors je ne sais pas si dans toutes les langues, en allemand, si on fait la distinction entre bienheureux et béni. C'est la même chose? Non. Je crois qu'en anglais, ils ne font pas la différence, mais peut-être que c'est des pensées qui se rapprochent. Le Dieu béni, parce qu'on voit aussi dans la Bible que on appelait Dieu le béni. Il est par exemple, on a posé la question au Seigneur, es-tu le fils du béni? Et il y a aussi, dans les Romains, par exemple, au chapitre 9, il est question du Seigneur qui est Dieu sur toute chose, béni éternellement. Et donc c'est le Dieu bienheureux, le Dieu béni éternellement, ce sont des pensées d'une profondeur et d'une grandeur extraordinaire qui parlent et qui touchent nos cœurs. Et Ici donc, il est question de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et c'est l'évangile que nous connaissons. Et nous savons par exemple que quand Jean le baptiseur est venu au début des évangiles, ou même le Seigneur, au début de son ministère, il est dit qu'il a prêché l'évangile du royaume. Et l'évangile du royaume, c'était un évangile en rapport avec ce qu'on appelle le résidu juif, le peuple d'Israël qui attendait la venue du Messie. Et c'est un évangile qui sera prêché de nouveau après l'enlèvement de l'Église. L'évangile du royaume avec cette pensée principale que le roi vient et qu'il faut se repentir avant la venue du roi et de son règne. Et c'est quelque chose qui a eu toute sa place, qui aura toute sa place. Mais dans le temps du christianisme, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a l'évangile, mais qui a une profondeur, une grandeur plus importante. Et on a essayé déjà d'en parler. Et donc cet évangile que nous, en tant que croyants chrétiens, nous connaissons, là il est appelé ici l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous dit bien qu'il y a un seul évangile. Et parfois il parle de ne pas écouter ceux qui voudraient apporter un autre évangile. Donc il n'y a qu'un seul évangile dans le temps du christianisme. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir que cet évangile, il est appelé parfois de manière différente, mais pour désigner la même chose. Alors, on va revenir ici, mais par exemple, on peut citer dans le livre des Actes, chapitre 20, acte 20, il est dit, acte 20, fin du verset 24, Paul parle de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Donc l'évangile de la grâce de Dieu. Si on va dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 1, verset 1, il est question de l'évangile de Dieu, et si on passe après la parenthèse, l'évangile de Dieu touchant son Fils, au sujet de son Fils. Même passage, verset 9, il est dit « l'évangile de son Fils ». Ensuite, je mentionne juste quelques expressions. Et dans Romains 15, il est aussi question, à la fin du verset 19, Paul dit « j'ai pleinement annoncé l'évangile du Christ ». Et puis encore une autre expression dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, il est question de, verset 4, 2 Corinthiens 4, 4, il est question de l'évangile de la gloire du Christ. Donc ce sont des expressions différentes pour parler de la même chose. Donc je redis, l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile de Dieu touchant son Fils, l'évangile de son Fils, l'évangile du Christ, l'évangile de la gloire du Christ, et là, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et c'est remarquable en fait parce que ce sont des expressions différentes pour parler de la même chose, mais qui montrent des aspects peut-être, complémentaires de l'évangile. Et par exemple, l'évangile de la grâce de Dieu, c'est vraiment pour souligner que cet évangile qui nous est révélé, c'est l'expression de la grâce de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu. Et quand en 2 Corinthiens 4, il est dit, c'est l'évangile de la gloire du Christ, c'est pour montrer que aussi un des thèmes centraux de cet évangile, c'est le fait que Christ est dans la gloire. Et là, ici, il est dit, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et donc, alors c'est une autre facette du même évangile, et clairement il semble aussi que c'est en contraste avec ce qu'on a dans les versets précédents, où on voit tous les péchés dans lesquels l'homme tombe, la corruption dans laquelle l'homme peut tomber, l'impiété, les profanes, les batteurs de père, les batteurs de mère, les homicides, la fornication, l'homosexualité, etc. Tout ça, c'est la dégradation dans laquelle l'homme tombe loin de Dieu. Et en contraste, il y a l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Il y a une dignité dans ce que Dieu révèle, une grandeur morale, la gloire que Dieu révèle, et il est le Dieu bienheureux. En contraste avec l'homme qui pense pouvoir faire sa propre volonté et qui en fait tombe dans la corruption du péché, en contraste avec cela, il y a la gloire du Dieu bienheureux. Il y a en effet cette pensée de la joie que l'on trouve en Dieu, que Dieu nous donne et que l'on trouve en lui, en contraste avec tout le péché dans lequel les hommes peuvent tomber. Et puis, il est aussi dit à la fin de ce verset 11, « qui m'a été confié ». Et c'est cet évangile, l'apôtre Paul il dit « c'est l'évangile qui m'a été confié ». Et dans la deuxième épître à Timothée, on peut aussi citer deux versets. Il dit par exemple 2 Timothée 2, verset 8 « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts de la semence de David, selon mon évangile. » C'est le même évangile, mais Paul ici l'appelle « mon évangile ». C'est l'évangile qui lui a été confié, à lui Paul. Donc on peut aussi l'appeler l'évangile de Paul. Et aussi il parle... Il me semble que c'est la même pensée dans le chapitre 3, verset 10. Il parle de ma doctrine. La doctrine de Paul, c'est la même chose ou quasiment la même chose que l'évangile de Paul. Et c'est donc cet évangile qui est la caractéristique du christianisme, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. C'est tout ce qu'il nous est révélé dans le temps du christianisme, toute cette vérité qui est lié au fait que Christ est dans la gloire, que le Saint-Esprit nous a été donné. C'est tout ce qui est propre au christianisme et qui se distingue de ce qui avait été révélé dans les autres dispensations. C'est quelque chose de particulier, qui a une saveur particulière, et c'est remarquable.
Plutôt une question par rapport à cette expression suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Peut-on voir aussi, et comme a dit Eric et même Jacques et Michel qui ont précédé, peut-on voir ici comme déjà là une affirmation de l'apôtre que Dieu est entré dans son conseil après que Christ ait été glorifié? On le voit un peu aussi avec Jean 17, et quand on fait un peu le parallèle aussi avec Proverbe 8, où il dit que justement Dieu trouvait son plaisir en la partie habitée des hommes. Est-ce que là aussi on peut voir justement, malgré le fait que encore sur cette terre, le péché a encore cours, mais déjà, comme Dieu pleinement est heureux de ce que Christ est venu, que sa volonté a été manifestée, et qu'il est déjà dans cette joie, cette anticipation qui ne pourra plus jamais être corrompue, parce que c'est scellé, tout est accompli, et que Christ en est le garant quelque peu. Est-ce qu'on peut aussi le voir dans cela? Parce que justement, l'apôtre Paul, que ce soit dans Éphésiens ou dans d'autres passages, montre bien que Dieu a atteint son but, Dieu a accompli les desseins de son cœur.
Juste une remarque sur 2 Corinthiens 4 que nous avons cité, où il nous est parlé au verset 4 de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Et dans la première épître à Timothée, nous avons Donc l'évangile de la gloire de Dieu. Christ aujourd'hui est ressuscité et élevé dans le ciel et il est assis à la droite de Dieu. Il est glorieux, il est exalté, il est dans la gloire du ciel. Et donc cette expression, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, et l'autre expression, l'évangile de la gloire du Christ, nous montre que c'est un évangile qui nous annonce, cette bonne nouvelle que Christ est mort pour nous, mais que maintenant il est ressuscité et il est exalté dans le ciel à la droite de Dieu. Et l'évangile, ce n'est pas seulement annoncer la croix de Christ, où notre Seigneur a porté en son corps sur le bois tous nos péchés, mais maintenant nous avons un Seigneur qui est élevé dans le ciel et à la droite de Dieu. Et donc, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux annonce aussi maintenant que Christ est dans le ciel et glorifié. Je voudrais ajouter aussi une autre expression sur l'évangile. Donc, on a cité Romains 1, l'évangile de Dieu. C'est parce que la source de l'évangile est dans le cœur de Dieu, est dans l'amour de Dieu pour sa créature. Et une autre belle expression, c'est dans Éphésiens 6, à propos de l'armure. Il nous est dit au verset 15, « Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. » L'évangile nous apporte la paix. Christ est notre paix. Et nous avons maintenant la paix avec Dieu. C'est l'évangile de la paix qui nous a été apportée aussi par Jésus-Christ.
Peut-être juste une précision par rapport au 2 Corinthiens 4. Ce qui est évoqué dans ce verset, ce n'est pas limité à l'évangile de la gloire du Christ. C'est la lumière de l'évangile de la gloire du Christ. Et le contexte nous aide à comprendre pourquoi c'est exprimé de cette manière-là. Si on lit un tout petit peu plus haut, si aussi notre évangile est voilé, verset 3, il est voilé en ceux qui périssent, en lequel le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. C'est face à l'action de l'ennemi qui aveugle et qui trompe les gens, des personnes qui en fait ne veulent pas écouter. Il y a un espèce de cercle que seule la puissance de Dieu peut briser, où on ne veut pas de Dieu et du coup l'entendement est obscurci, on ne voit pas Dieu se manifester et ne le voyant pas, on le rejette encore, quoi. Et Satan entretient cette espèce de cercle en agissant. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que non pas la gloire, mais la lumière de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas. Cette lumière a été manifestée en Christ. C'est Jésus, Christ, le Christ, qui est venu sur la terre, qui s'est manifesté aux hommes, qui a manifesté Dieu aux hommes de manière visible. Et c'est pour ça que là, il est parlé de la gloire du Christ plutôt que de la gloire de Dieu, le terme plus global, plus général. Alors que là, dans notre passage, pour revenir à 1 Timothée, c'est vraiment l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux dans tout son ensemble, dans toutes ses facettes. Et c'est ça, et effectivement, on rejoint ce que Eric disait tout à l'heure, à travers toutes ces expressions qu'on a, autour, associé à ce mot de bonne nouvelle, d'évangile, c'est ce qui a été confié à Paul. Et si on passe au verset suivant, l'évocation de ces choses-là, et l'évocation probablement de l'énumération de tous ces caractères, de ceux à qui s'adresse la loi, c'est quelque chose qui touche particulièrement Paul. Il utilise, il le prédit bien, « Moi qui auparavant était un blasphémateur, un persécuteur, un outrageux. » D'autres versions disent, pour outrageux, disent « un coutumier de la violence ». Et si on pourra citer peut-être des différents passages où Paul lui-même parle de ce qu'il a été. Le contraste, le souvenir de ce qu'il a été est quelque chose qui remonte, qui revient dès que Paul évoque l'évangile qui lui a été confié. Moi qui étais tout ceci, moi qui méritais de plein de manières le jugement de Dieu. Par grâce, non seulement j'ai été sauvé quant à mon salut personnel, mais Dieu a bien voulu m'utiliser, moi, à son service. Et même, il m'a confié cet évangile-là, cette bonne nouvelle extraordinaire, il me l'a confié pour la propager, pour l'annoncer sur la terre. Moi qui n'étais que cela.
Encore une remarque sur l'évangile de la gloire de Christ, de la gloire du Dieu bienheureux. C'est que on peut utiliser une image de l'Ancien Testament pour illustrer ce que c'est que le contenu de cet évangile et selon ces expressions qu'on a vues. Et c'est dans Lévitique chapitre 16, dans Lévitique chapitre 16, c'est la description des sacrifices qui étaient offerts pour le grand jour des propitiations. Et il y avait quelque chose d'extraordinaire quand on regarde attentivement. C'est dans les versets, je passe sur tous les détails, mais c'est très intéressant à sa place. Dans les versets 12 et 13 de Lévitique 16, il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est que le sacrificateur, le grand sacrificateur, ce jour-là, le jour de l'expiation, il entrait dans le lieu très saint et il ne le faisait que ce jour-là. Il n'avait pas le droit autrement d'y entrer. Et il y entrait et il nous est dit là, dans Lévitique 16, verset 12, avec un encensoir de charbon de feu, plein ses pommes d'encens de drogues odoriférantes pulvérisées. Et il les apportera au-dedans du voile. Et il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel pour que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Donc, le grand sacrificateur, il entrait dans le lieu très saint avec, entre autres, cet encens qui produisait une nuée. Et il entrait donc avec cette nuée d'encens dans le lieu très saint. Et cette nuée de l'encens nous parle en fait des perfections de la personne de Christ. Et ce jour-là, donc, il y avait la nuée de l'encens qui venait dans le lieu très saint et qui rencontrait une autre nuée. C'était la nuée de la présence de Dieu qui était au-dessus du propitiatoire. Et donc, on a dit que la nuée de l'encens qui rencontre la nuée de la présence de Dieu qui est au-dessus du propitiatoire, cette rencontre de ces deux nuées, c'est l'évangile de la gloire de Christ ou l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et de façon illustrée, ça nous montre la perfection de Christ et de son œuvre et de sa personne qui rencontre la perfection, la sainteté, la gloire de Dieu lui-même. Et ça peut être donc une image qui a peut-être ses limites, mais qui nous montre de façon illustrée, en fait, l'évangile de la gloire de Dieu, c'est ça. C'est la nuée de la perfection de Christ qui rencontre la nuée de la présence du Dieu saint. Et en effet, on avait dit, et pour continuer ce qui a été dit en rapport avec Paul, qui parle ensuite de lui-même et de comment Dieu l'a arrêté et l'a sauvé, en fait, lui qui était un pécheur. Et on voit en fait là la puissance de l'Évangile. Et Romains 1 nous dit aussi que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu à salut à quiconque croit. Donc dans l'Évangile, il y a la puissance pour sauver. Et dans le résumé, on a dit que dans la loi, il n'y avait pas de puissance. La loi est juste et sainte et bonne, il n'y a aucun doute à émettre, mais la loi, elle n'a pas de puissance. Mais l'Évangile, il est la puissance de Dieu à salut. Et là, on le voit dans le cas de Paul, Saul de Tarse, qui était, il le dit, le premier des pécheurs. Il était le plus grand des pécheurs. Pourquoi ? Parce qu'il avait persécuté l'assemblée de Dieu. Il avait persécuté ce qui était le plus précieux aux yeux de Dieu. Il était un blasphémateur. Il était un persécuteur, un outrageux. Il se qualifie comme ça, le premier des pécheurs. Eh bien, l'Évangile et la puissance de Dieu en salut pour sauver quiconque croit. Et l'Évangile peut sauver le plus grand des pécheurs.
Encore un verset dans le Deutéronome, chapitre 33. Donc Dieu est un Dieu bienheureux qui désire le bonheur de sa créature. Et dans 1 Timothée, c'est le Dieu sauveur, ce Dieu bienheureux. Et Deutéronome 33, verset 29, la première partie, nous voyons aussi que Dieu a toujours voulu le bonheur aussi de son peuple Israël. Il désire notre bonheur aujourd'hui, mais il a aussi désiré le bonheur de son peuple Israël. Verset 29, « Tu es bienheureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. » Et nous voyons que, dans ce passage, que Dieu veut nous éclairer, encore une fois, que le bonheur se trouve en Dieu et en lui seul. Et ce bonheur commence par le salut, hein, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel. Et il commence donc par le salut qu'il donne à son peuple Israël, ou comme ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais nous voyons que Dieu veut aussi notre bonheur journalier. Par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. C'est-à-dire que Dieu veut notre bonheur journalier pendant toute notre histoire, pendant toute notre vie, qu'il est notre bouclier, qu'il est notre secours, qu'il nous protège et qu'il vient à notre aide pendant tous les jours de notre vie. Encore un verset dans un roi, premier livre des rois, chapitre 10, à propos de la reine de Sheba. Voyons que la reine de Sheba, au verset 8, avait constaté le bonheur de ceux qui étaient auprès de Salomon, ses gens, et il nous est dit « Heureux tes gens, heureux ceux-ci, tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » Si Dieu veut notre bonheur, le bonheur de le connaître comme notre Dieu sauveur, le bonheur de connaître Christ, Christ qui est maintenant dans la gloire du ciel, eh bien nous voyons que si Dieu nous protège, s'il est notre aide journalière pendant les jours que nous traversons dans cette vie, eh bien de notre côté nous avons la responsabilité de nous tenir comme des serviteurs, se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Pouvons-nous nous réjouir de connaître un tel Dieu sauveur, un tel Dieu bienheureux qui désire notre bonheur, mais pour jouir de ce bonheur pendant tous les jours de notre vie, eh bien, nous devons être ses serviteurs. Nous devons nous tenir continuellement devant lui et écouter les paroles qui sortent de sa bouche.
Nous avons pas mal parlé de l'Évangile. Je crois que dans ce premier chapitre de Timothée, on en a un condensé, un résumé au verset 14. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. La première phrase, voilà, n'est pas sans rappeler voilà, que quand le péché était là, la grâce a surabondé. Vraiment quelque chose qui caractérise l'œuvre de notre Seigneur. Derrière, on s'est juste suivi avec la foi et l'amour. Alors pas n'importe quoi, pas n'importe qui, dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose qui signe aussi le message de l'Évangile, croire dans le Seigneur Jésus. Donc la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, de le recevoir complètement. L'amour nous parle un peu de ce côté aussi serviteur, de chercher à le suivre, d'avoir ce cœur entier pour lui. Ce message, il est certain, il n'y a pas de doute à avoir. Il est digne de toute acceptation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fraude à l'intérieur, il est vrai, il est entier. Et ce message, voilà, il y a encore un résumé derrière. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et pour cela, il suffit de venir à la croix repentant.
Dans Acte 9, on peut relire le premier verset. Or Saul, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Dans 1 Timothée, premier chapitre, verset 16, « Mais miséricorde m'a été faite. »
on remarque aussi dans ce passage de 1 Timothée que, de façon peut-être un peu surprenante, quand Paul parle de la grâce qui s'est manifestée envers lui, il parle d'abord du service dans lequel il a été établi, et ensuite il parle de sa conversion, du fait qu'il était le premier des pécheurs et qu'il a été arrêté et dans cet état-là pour qu'il se repente et qu'il se convertisse. C'est remarquable. Alors je ne veux pas dire grand-chose sur cet ordre, mais en tout cas on voit que pour Paul, le service que le Seigneur lui a confié et la grâce qui lui a été faite en tant qu'homme pécheur et coupable, il considérait les deux choses comme étant un pur effet de la grâce de Dieu. Que ça soit sa propre conversion, lui qui était le premier des pécheurs, et que ce soit son service unique qu'il a reçu pour voilà cette révélation chrétienne que Dieu a donnée à travers Paul, eh bien pour lui, l'un comme l'autre, il les a reçus sur la base de la grâce de Dieu. Et là, on le voit, il le montre, et on le voit aussi dans l'Épître aux Romains. On a déjà fait allusion à Romains chapitre 1. On voit aussi la même chose qui est touchante au verset 5. Il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat. Donc la grâce qu'il a reçue en tant qu'homme pécheur, et le service d'apôtre unique qu'il a reçu de la part du Seigneur, il met l'un comme l'autre, c'est un effet de la pure grâce du Seigneur envers lui.
Le passage qu'on a lu de Acte 9 nous montre bien, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, voilà la pensée de Paul, l'état d'esprit dans lequel il était. Et quand le Seigneur l'arrête quelques versets plus loin, verset 4, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse, « Je suis Jésus que tu persécutes. » L'action de Paul, et il le dira lui-même plus tard, en visant les chrétiens, sans qu'ils mesurent l'importance, la gravité de la chose, visait en fait le Seigneur lui-même. Acte 26, qu'est-ce qu'il dit ? Acte 26, verset 9, « Pour moi donc, j'ai pensé en moi-même qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus de Nazaréen. » Le nom de Jésus de Nazaréen. Celui que ses disciples-là, que ceux qui le suivent, mettent en avant. Celui qui est rien, qui est un usurpateur, qui est... Voilà. Le Seigneur n'était rien pour lui. C'était un nom que... Bien sûr, le terme de nom a aussi une autre signification. Je tire un peu dans un sens, là, mais il y a un autre sens aussi dans ce fait du nom. Mais voilà, le Seigneur, qui il était, ce n'était pas une réalité, c'était plus un concept contre lequel il s'opposait à travers les disciples. Et si on lit la suite, ça va dans le même sens que le début de Acte 9, et c'est Paul lui-même qui le dit. Je reprends verset 9. « Pour moi donc, j'ai pensé en moi-même qu'il fallait faire beaucoup contre le nom de Jésus, le Nazaréen, ce que j'ai fait aussi dans Jérusalem, et j'ai enfermé dans les prisons plusieurs des saints, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les faisait mourir, j'y donnais ma voix, et souvent dans toutes les synagogues, en les punissant, je les contraignais de blasphémer, et transportés de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. » Damas. Si on prend au début de l'Épître aux Galates, il rappelle un aspect de la même chose. Galates 1, verset 13, « Car vous avez ouï dire quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais outre mesure l'Assemblée de Dieu et la dévastais, et comment j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations, etc. Je ne prie pas conseil, etc. On a cette énergie farouche, un engagement à fond, entièrement. Le zèle pour Dieu contre Christ, ne réalisant pas l'entière contradiction qu'il y avait là, enfermé dans cela. Et alors quand il dit « Grâce m'a été faite, miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. » L'ignorance, l'incrédulité. Et quand on lit ça, on comprend un peu mieux ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, au début du chapitre 10, quand il parle de son peuple, disent des Juifs, « Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car ignorant la justice de Dieu, cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. » C'est un verset, c'est une série de versets, un paragraphe qui est très précieux pour comprendre un peu la situation des Juifs en ce temps-là, et avec toutes les conséquences que ça a aujourd'hui, pour les Juifs aujourd'hui, dans leur refus du Seigneur, et que Paul peut lui-même, il est passé par là, il a pleinement vécu cette ignorance, cette incrédulité qui l'a amené à être opposé, violemment opposé à Dieu lui-même. Alors, bien sûr, devant un tel constat, voilà. C'est le verset 12 commence, « Je rends grâce. Je rends grâce. Voilà tout ce que j'étais, voilà tout ce que j'ai fait. Et Dieu a usé de grâce, de miséricorde, pour moi qui était cela. Je rends grâce à Dieu, au Christ Jésus, notre Seigneur. » Quelque chose, cette reconnaissance qui ne peut que être manifesté quand devant lui il y a le regard en arrière sur tout ce qu'il avait été, sur tout ce qu'il avait fait, par zèle pour Dieu, contre Dieu. C'est quelque chose ça mérite qu'on s'y arrête, de zèle pour Dieu qui se retourne, qui se traduit dans les actions contre Dieu. Et Dieu l'avait mis à part, et l'a cherché, et l'a arrêté sur le chemin, pour en faire son instrument.
Il y a aussi un verset qui peut montrer l'état d'esprit de Paul avant sa conversion. C'est dans Luc chapitre 19, quand il est question de la parabole des talents. Il est question dans la parabole des talents d'un homme noble. Donc Luc 19, verset 11 et suivant, il est question, verset 12, d'un homme noble s'en allant dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Donc cet homme noble, c'est le Seigneur, qui s'en va dans un royaume, qui s'en va dans un pays éloigné, dans le ciel, on pourrait dire, pour recevoir un royaume et revenir. Et quand cet homme donc est dans ce pays éloigné, verset 14, ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent après lui une ambassade disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Donc dans cette parabole, l'homme noble est déjà parti, il est dans ce pays éloigné et ses concitoyens le haïssent tellement qu'ils envoient après lui une ambassade pour lui dire « Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. » Et on a dit que ça c'était la description de l'état d'esprit de Paul en acte 9. Le Seigneur est dans un pays éloigné, il est dans le ciel, mais il respire encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur. Et quelqu'un a dit, s'il avait pu monter au ciel pour en faire descendre Christ, pour le jeter par terre, il l'aurait fait, tellement il était déterminé dans son opposition. Il était comme ceux de cette ambassade qui sont allés après l'homme noble pour lui dire, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Il était dans cet état d'esprit-là. Et on a lu, quand il a été arrêté, il a été jeté par terre et il a eu cette lumière qui l'a ébloui et il a dit en acte 9, « Qui es-tu, Seigneur ?» la réponse. Donc il a compris tout de suite qu'il avait affaire à celui qui était Seigneur, celui qui avait l'autorité absolue dans le ciel. Et quand il a demandé « Qui es-tu, Seigneur ?», il a eu la réponse « Je suis Jésus que tu persécutes. » Ce Seigneur, c'était Jésus. Et là, on s'arrête un moment et on s'imagine cet homme qui comprend à ce moment-là que toute sa vie, jusque-là, tout son zèle avait été contre cet homme-là précisément, Jésus. Et on peut se l'imaginer en train de fermer les yeux, de se contracter, s'attendant à recevoir le coup de la condamnation. Eh bien non, miséricorde m'a été faite. Il n'a pas été frappé. Il aurait mérité. Miséricorde m'a été faite. Le pardon, la grâce, sur la base de la justice de l'œuvre de Christ. Il a été pardonné. Il a expérimenté ce que c'était que la grâce imméritée en rapport avec lui. Et de façon remarquable, comme on l'a dit tout à l'heure, sa conversion et son service sont en fait intimement liés. Et quand on regarde Acte 9, tout de suite, le Seigneur dit, eh bien, cet homme-là met un vase d'élection pour porter mon nom devant toutes les nations, le peuple d'Israël, etc. Sa conversion, et quand on regarde aussi les détails sur le fait que le Seigneur se présente comme Jésus que tu persécutes, le fait que si on touche aux disciples, on touche au Seigneur, il y a la vérité, on pourrait dire, du corps de Christ qui est là. Les disciples sont son corps et lui, il est la tête dans le ciel. Si on touche ses disciples, on touche à lui. Donc, on voit combien la vérité que Paul allait révéler, allait exposer, elle est déjà presque illustrée dans sa conversion. Et c'est pour ça qu'on peut dire que sa conversion et son service sont très liés. Et tout ça, ça révèle la grâce de Dieu envers lui.
L'apôtre Paul, il rappelle aussi aux Philippiens, au chapitre 3, versets 5 et 6, qu'il était hébreu, des hébreux, quant à la loi, pharisien, et quant aux zèles, persécutant l'assemblée. Mais là, il dit, mais miséricorde m'a été faite. Deux fois, il le dit.
Peut-être juste rappeler deux choses. Premièrement, l'exemple de Paul que nous avons sous les yeux, c'est un exemple qui est un modèle, c'est-à-dire un exemple que, si on peut dire, on n'atteindra jamais dans la profondeur de ce qu'il a fait. Nous le voyons au verset 16. Miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je sois un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Voilà un homme qui a été dans une extrémité que nous ne sondons pas, bien plus certainement que celui qui est meurtrier. Et nous ne pouvons pas dire, nous, que nous sommes le premier du verset 16. Nous avons cet exemple que le Seigneur, dans sa grâce, nous a révélé pour nous montrer que si lui a eu miséricorde, alors combien plus nous aussi nous aurons miséricorde. C'est la première chose. Et secondement, ce que je voudrais relever sur la miséricorde aussi, c'est la miséricorde nous rend, nous donne beaucoup de choses dont notre dignité perdue aussi par le péché. Mais ce qu'elle nous donne en premier, certainement, c'est notre connaissance de nous-mêmes. Quand l'apôtre dit au verset 13, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un outrageux. » Qu'est-ce que le Seigneur dit à Paul, à Saul, sur le chemin de Damas ?« Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, il peut ajouter, « J'étais un blasphémateur, un persécuteur et un outrageux. » Et on voit que la miséricorde de Dieu est de nous révéler exactement ce qu'il y a au fond de notre cœur. Dans notre profondeur intérieure, Dieu est lumière pour nous y jeter sa lumière et nous dire « Tu es comme cela, tu es cela. » Quand autour de nous, on cherche à plutôt excuser et pardonner le péché en disant « Voilà, voilà, regarde le passé, regarde son état, regarde son caractère. » Non, l'Évangile nous montre exactement ce que nous sommes. Et dans la conscience de la miséricorde et de la grâce du Seigneur, qui pourtant ne nous consume pas, nous pouvons prendre les mêmes yeux et dire « Voilà, je suis un persécuteur, un blasphémateur, un outrageux. » Mes miséricordes m'ont été faites. Et ce sont des choses qu'il faut que ça aille ensemble, sinon nous ne relevons jamais la tête. Mais le Seigneur veut non seulement nous montrer notre état, mais aussi relever notre tête, nous donner la dignité du Seigneur, nous donner ses ressources, sa grâce, sa force aussi, parce qu'il est dit « Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié. » Et cela, c'est le début pour pouvoir avoir ce service fidèle.
Il y a deux mots qui sont utilisés là dans ces paragraphes, mots de miséricorde et de grâce, qui ont en général des sens un peu différents. La miséricorde, c'est plutôt cette compassion à l'égard de quelqu'un à cause de l'état dans lequel il est. Par exemple, pour prendre quelque chose de simple, un orphelin qui n'a rien, personne, et qui se retrouve dans un état de misère, la miséricorde, c'est une compassion pour cette personne, pour cet orphelin, à cause de son état, dont il n'a pas aucune responsabilité particulière. Alors que la grâce, c'est cette même compassion, et je ne suis pas sûr que le mot compassion soit vraiment juste, à l'égard de quelqu'un qui est entièrement responsable de l'état dans lequel il est. Pour prendre un cas aussi un peu caricatural, le meurtrier mérite sa condamnation. Il n'y a pas de miséricorde qui a à jouer à cet égard-là. Par contre, la grâce peut jouer en ce sens que, parce que, par exemple, il reconnaît sa faute, il recevra une peine plus légère. On use de grâce à son égard. Ou alors, dans des anciens temps où le roi avait pouvoir de grâce, il pouvait gracier la personne et passer, mettre le jugement de côté. Et là, au fond, dans ce passage, on a les deux mots qui apparaissent et quelque part, on a du mal à distinguer qu'est-ce qui est du registre de la miséricorde et qu'est-ce qui est du registre de la grâce. Dans la fin du verset 13, « Parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. » Effectivement, l'ignorance... On peut dire qu'il y a deux sortes d'ignorance. Il y a l'ignorance de celui qui ne veut pas se renseigner et qui est responsable d'être ignorant. Et il y a l'ignorance de celui qui ne connaissait pas, qui ne savait pas la chose. Et c'est difficile de distinguer pour le sujet qui est là, pour l'apôtre Paul ou pour nous-mêmes avant notre conversion, qu'est-ce qui est des choses que nous aurions pu savoir et que nous avons mis de côté, et ce sont les choses que nous ne savions réellement pas. dans un monde, aujourd'hui, les choses changent un petit peu, en ce sens que, ouvertement, nos pays mettent de côté complètement tout ce qui vient de Dieu, même si oppose ou moque beaucoup plus ouvertement qu'il y a 30 ou 50 ans, mais on pouvait vivre dans un milieu chrétien sans avoir jamais ouvert une Bible. Il y avait une responsabilité, la Bible était là, mais il y avait une ignorance d'une Bible qui n'avait jamais été ouverte et dont on n'imaginait pas qu'elle pourrait avoir sa place et quelque chose à nous dire. En ce sens-là, miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. On change de registre. On va dans un registre où tout est de Dieu. Et il n'est plus parlé de miséricorde, mais il est parlé de grâce et il est parlé de surabondance. Le superlatif pour montrer combien cette grâce est grande à l'égard de Paul, mais à l'égard de chacun de nous. Paul dit, bien sûr, « Miséricorde m'a été... » fin du verset 15... pour sauver les pécheurs dont moi je suis le premier. Nous sommes incapables, nous, de juger qui est le plus grand des pécheurs. Mais Paul avait fortement conscience que parmi les pécheurs, comme on l'a cité tout à l'heure, il était allé très loin parce qu'il avait persécuté l'Assemblée. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. Quelle conscience avons-nous, chacun pour lui-même, de ce que nous étions avant notre conversion ? Ça n'a pas d'intérêt de mettre des gradations, de faire une échelle. C'est pas de notre ressort. Ça n'a pas d'intérêt non plus de comparer. Mais chacun pour lui-même, prendre conscience de ce que nous étions, dans quel état nous étions avant que le Seigneur touche notre cœur, notre conscience. Et puis je dois encore revenir sur « j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité ». Les liens qu'il y a là, entre ignorance et incrédulité. L'ignorance, comme j'en ai parlé avant, et l'incrédulité. Il y a des tas d'attitudes, de réactions qu'on peut avoir que spontanément nous appellerions pas incrédulité. Et que pourtant, la parole appelle incrédulité. Là aussi, c'est pas utile, c'est pas intéressant de faire des échelles ou un catalogue. C'est vraiment des choses qui doivent nous parler à chacun pour lui-même. Mais au fond, est-ce que ceci ou cela, je le fais comme ceci parce que je doute que Dieu puisse agir en ceci ou en cela. Voilà. Et ce petit doute que je n'appellerai jamais doute, c'est au fond de l'incrédulité qui influence la manière dont je vis ma foi. Et vous voyez là qu'il y a une espèce de flou pour nous-mêmes entre ce qui est d'un côté des actes de foi, une marche par la foi, et d'un autre côté, quelque chose qui bride cette foi, qui est au fond, une incrédulité. J'ajoute encore quelque chose à ce que je viens de dire. Je ne voudrais pas que ça trouble quelqu'un sur sa propre foi. Je voudrais plutôt... Je maintiens les choses comme j'ai dit, mais je rajoute quelque chose. Ce sont des choses... Cette interrogation qu'on peut avoir, elle doit nous amener, elle doit nous faire nous tourner sur ce qui précède, la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé. Il y a là un registre de lequel où nous ne devons pas nous voiler la face, mais où en même temps, devant cette réalité de nos doutes qui peuvent apparaître et disparaître de nouveau si sec, ben, il y a la grâce de Dieu qui surabonde. Et ça doit nous rendre plus précieux cette grâce de Dieu comme étant un de ses trésors à ne pas lâcher. Parce que c'est en elle que nous avons toute ressource. C'est par elle que nous pouvons tenir debout, que nous pouvons marcher. Notre foi, elle est faible, elle est bien souvent chancelante. Mais la grâce, elle est toujours là, elle est surabondante. Elle est fondée, c'est la nature, ça fait partie de Dieu amour. Et c'est quelque chose que nous révèle pleinement l'œuvre du Seigneur Jésus. Si l'œuvre du Seigneur Jésus n'était pas ce qu'elle est, il n'y aurait pas de grâce. S'il y a grâce, c'est parce que cette œuvre est complète, parfaite.
Rapidement, deux mots sur ce verset 12. Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié. Et je crois que c'est Eric qui l'a abordé. Je ne vais pas, moi non plus, donner des niveaux de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service. Et après, il peut dire, moi qui auparavant étais persécuteur, outrageux, blasphémateur. Ce n'est pas comme je disais pour donner des niveaux de grâce, mais nous voyons l'apôtre Paul ici comme dire je pouvais être sauvé par le Seigneur comme tout homme, mais qu'il daigne encore me prendre moi qui étais, on a pris l'exemple de Luc 19, celui qui était prêt à le faire descendre pour marcher sur sa gloire, si bien sûr c'était possible, et me donner une telle grâce que de le servir avec un, voilà, une telle mission qui me valorise autant, et bien là il voyait une grâce qui certainement n'avait pas de commune mesure avec le fait d'être sauvé. On ne rabaisse pas le fait d'être sauvé, Paul l'était, mais il l'a reçu. Et 2 Corinthiens 4, 2 nous montre bien qu'il fallait être fidèle pour être un administrateur, pour gérer des choses. Mais lui, il pouvait dire, je n'avais rien fait, j'étais même méchant. Enfin, voilà, j'agissais méchamment, mais c'est à moi qu'il a donné cette grâce-là de parler pour lui, comme un peu, justement, je reviens sur cette parabole-là, comme pour construire son royaume. Et c'est là où, encore une fois, il peut après, avec cette doxologie, se dire que c'est une grâce qui ne pouvait certainement pas être vaine. C'était une grâce divine, parce qu'il a fait de lui ce qu'il était devenu.
Encore une remarque, je ne sais pas à quelle heure ça doit finir, je ne veux pas être trop long, trop lourd, mais encore sur ce sujet de la grâce dont il a été l'objet, et on a montré ces deux aspects. Il y a l'aspect de ce qu'il était avant, et en rapport avec ce qu'il était avant, la miséricorde de Dieu envers lui. Il était misérable dans le fond, et Dieu a usé de miséricorde envers cet homme misérable. Et de notre côté, l'extraordinaire des révélations que Dieu lui a confiées à lui. Donc la grâce de Dieu envers Paul, d'un côté, elle se manifeste en rapport avec l'homme terrible qu'il avait été avant, mais elle se manifeste aussi dans l'extraordinaire des révélations qui lui sont confiées. Et dans les deux cas, c'est la grâce de Dieu. Et dans les deux cas aussi, ça le rend humble. Parce que d'un côté, il est conscient qu'il était un homme terrible avant et que Dieu a usé de miséricorde envers lui. Et il s'appelle le premier des pécheurs. Mais en rapport avec ce que Dieu lui a confié, là aussi il est conscient que c'est une grâce extraordinaire qu'il ne méritait pas. Et on voit, je fais deux petites allusions, dans Éphésiens chapitre 3, c'est un chapitre où il présente l'extraordinaire des révélations qui lui ont été confiées. Éphésiens 3, c'est un chapitre remarquable. Et quand il en parle de ce qui lui a été confié, des révélations qui lui ont été faites, il emploie cette expression, verset 8, « À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été donnée d'annoncer, etc. » Quand il est conscient de l'extraordinaire de ce qui lui a été confié, il dit à moi qui suis le moindre de tous les saints. C'est-à-dire que la révélation qui lui est confiée, elle produit un effet intérieur chez lui, un effet réel. Il est humble et il se sent être le moindre que le moindre de tous les saints. Et c'est sincère, c'est pas des paroles affectées, c'est réel chez lui. Parce que voilà, ce que le Seigneur lui a confié est tellement grand qu'il se sent rien devant tout cela. Et il y a aussi dans 1 Corinthiens 15, quand il parle des apôtres, verset 9, il dit « Moi, je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. »
Je voudrais juste souligner une petite proposition qu'il y a dans l'un des versets, dans le verset 12, qui m'a fortifié. C'est une idée qui n'est pas forcément très présente là, mais c'est peut-être pour compléter ce que Paul a pu avoir conscience, c'est qu'il a aussi conscience que derrière cette grâce, ou derrière aussi l'exercice le service qui est devant lui, tout est appuyé sur Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ, ce qui lui donne les forces.